Entretien avec Valérie Perrin, septembre 2024.
Chère Valérie Perrin, merci beaucoup de nous retrouver pour cet entretien à l'issue de l'enregistrement de votre roman publié chez Albin Michel, Tata, et qui sera également publié en livre audio chez Audiolib. Pour ouvrir cet échange, je voulais d'abord commencer par un remerciement. Parce qu'en tant qu'éditeur audio, lorsque nous avons lu votre livre avec l'équipe, il y a eu une joie collective qui s'est emparée de nous en réalisant finalement le foisonnement des propositions artistiques que nous pouvions faire avec votre roman. Avoir dans ce récit des enregistrements audio inclus qui font avancer l'histoire, quelle chance! Vous avez également intégré d'autres formes littéraires comme celle du scénario et très souvent aussi du style indirect libre comme lorsque Georgette, la mère de Colette, parle avec sa syntaxe à elle. Cette idée d'alternance des formes, est-ce qu'elle était dans le projet du livre dès le début?
Alors, je pense que ça fait partie de... C'est très multiple et en même temps, je pense que ça fait partie de mon processus de création, mais depuis très longtemps. Par exemple, j'ai fait beaucoup de collages. J'adore le mélange de genres. Et je pense que c'est ainsi depuis Les Oubliés du dimanche où je mélangeais le livre bleu, le présent, le passé. J'adore ça en fait. Je crois que j'adore ça, donc je ne me suis pas privée.
Et l'idée de proposer que Colette et Blanche aient fait ces enregistrements sur ce petit lecteur de cassette, est-ce qu'elle a été fondatrice dans ensuite la construction de la narration?
Il fallait trouver un moyen. J'y pensais tout à l'heure en arrivant, je me disais, mais à quel moment c'est arrivé? À quel moment j'ai eu envie et l'idée de faire parler ces cassettes? Je m'en souviens plus précisément. Mais je trouvais que c'était très joli d'imaginer la narratrice oublier chez sa tante Colette un vieux magnéto. J'ai parfaitement imaginé Colette appuyer sur le bouton enregistre de ce vieil appareil. Et parler, se réécouter et oser dire des choses qu'elle n'aurait jamais osé dire si elle avait été en face de sa nièce. Ça m'intéressait beaucoup et j'imagine complètement sa petite silhouette encore aujourd'hui face à cet appareil où elle parle de tout, elle enregistre tout, sa voix, la voix de Blanche. Je la vois et je la ressens et puis c'est rigolo parce que on imagine, mais un peu comme le faisaient nos grands-parents, c'est drôle cet aspect-là des choses. Par exemple, ma grand-mère, quand je l'appelais, elle me disait « mais t'es en train de fumer parce que ça sent le tabac ». Et elle était extrêmement sérieuse quand elle me disait ça. Et ce que j'ai aimé avec Colette, c'est qu'elle s'enregistre et puis on l'entend qui va parler à un chat dans le jardin. Elle revient, elle va boire un verre, elle parle toute seule, elle revient vers l'appareil, exactement comme si elle n'avait pas interrompu la conversation. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plu en fait. Je me suis mis à la place de Agnès, la narratrice, et je me dis, j'adorerais qu'on m'amène une valise de cassettes enregistrées ou par mes grands-mères ou par mes grands-pères, et puis en plus garder la voix, c'est très beau.
Voilà. Oui, d'ailleurs, vous décrivez très très bien dans le livre les alternances de silence et de déplacement entre les moments où Blanche ou Colette parlent et puis les moments où elles continuent leur propre vie.
Oui.
Et effectivement, c'est un peu notre rêve à tous d'avoir ce testament oral qui viendrait, après la disparition des êtres aimés, nous expliquer tout le déroulement de leur vie. C'est vrai que là, pour le coup, notre héroïne Agnès n'imaginait certainement pas qu'elle allait découvrir tout ce qu'elle allait découvrir en écoutant ces cassettes. Quand on lit votre roman, on mesure à quel point il est extrêmement composé, comme une symphonie presque, et d'ailleurs c'est une des thématiques importantes du livre. Est-ce que vous travaillez la structure avec l'intrigue principale, les sous-intrigues, les différentes temporalités comme un scénario, avec une sorte de quasiment de représentation graphique avant l'écriture, ou est-ce que c'est au fil de l'eau? J'imagine que non.
Eh bien, figurez-vous que c'est complètement au fil de l'eau. Et j'ai bien du mal à l'expliquer, surtout quand j'en suis à la 500e page et que j'ai absolument tout dans la tête, que je sais exactement, que je connais chaque recoin du roman, j'ai tout dans la tête. C'est très particulier, je sais, cette façon de construire. En général, sur les romans, déjà j'ai la fin, je sais quand même où je vais. En revanche, je me laisse toutes les libertés pour le construire et je laisse aussi la liberté au personnage de venir me parler ou de s'imposer plus ou moins. Et en fait, là, par exemple, notamment pour Tata, j'étais presque arrivée à la fin lorsque j'ai fait une frise pour mettre chaque date et pour être bien en adéquation avec toutes les dates parce que c'est très daté. Forcément, il faut un repère très fort pour le lecteur, pour pas qu'il se perde jamais. Donc, il faut qu'il y ait des gros repères et ces repères sont les dates. Et du coup, j'ai fait la frise, mais vraiment, j'avais presque fini de l'écrire. Et je peux pas l'expliquer parce que c'est quand même 2 ans et demi de travail non-stop tous les jours. Alors pas 8 heures par jour, hein, j'en serais bien incapable, mais quelques heures tous les jours pendant 2 ans et demi. Et même au bout de 2 ans et 2 mois, je le connais par cœur, je l'ai dans la tête, je sais où je vais et je vois ce qu'il faut, comment je peux modeler toute cette matière. Mais c'est vrai que j'écris au fur et à mesure et tout reposait sur beaucoup de choses reposaient sur la fin dans ce roman.
Vous avez donc déjà la cartographie mentale de tout le roman quand vous l'écrivez.
En fait, je la construis au fur et à mesure, ouais.
Et pourtant, elle est d'une cohérence absolue. Et cette fin, qu'on ne va pas révéler parce que, effectivement, c'est
terrible.
Fin est très importante. On essaye de l'imaginer tout au fur et à mesure de la lecture. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ça le plaisir. Mmh. En tant que lecteur, on est très souvent surpris puisque ce qu'on a imaginé comme issue pour certaines des sous-intrigues n'est jamais celle qui est proposé par vous, et ça fait aussi le plaisir et l'excitation, finalement, de la lecture. Mais si on revient à la chair du roman, on a Guignon, on a le club de football local, vous semblez connaître parfaitement les lieux, comme si vous y étiez né. Est-ce que c'est le cas?
Alors, en fait, j'y suis pas née, mais je suis arrivée, j'avais 1 an à Guignon, puisque mon père était footballeur professionnel. Donc, on est arrivé avec maman, papa et moi en 68 à Guignon. Et j'y ai grandi, j'ai quitté cette petite ville à l'âge de 19 ans. Donc, je connais chaque rue, chaque recoin absolument par cœur. Et j'ai beaucoup utilisé cette mémoire-là aussi. J'y retourne régulièrement, mes parents y vivant toujours. Donc, je connais chaque recoin par cœur. Mais ce qui est très, très amusant, c'est la différence entre ce qu'on retrouve dans le roman et la réalité, bien évidemment, puisque notre mémoire nous joue des tours aussi. On voit toujours les choses très grandes, alors qu'elles sont beaucoup plus petites. On les voit encore très belles, alors qu'elles sont très abîmées par le temps. Mais il est vrai que là, j'ai vraiment utilisé toutes les rues, des noms de famille. Mes parents avaient un commerce, ont tenu un commerce très longtemps. Donc, cette rue Pasteur, c'est la rue de mon école primaire, la rue Jean Jaurès dont je parle beaucoup, les commerçants dont je parle, ils ont existé. Je voulais aussi rendre hommage à cette ville. Et puis le football est complètement était alors les moins maintenant, mais était totalement omniprésent durant toute mon enfance. C'était un club très puissant, Guignon. Ils sont allés jusqu'en première division, deuxième division. Donc on parlait beaucoup du football. Donc on a vraiment grandi football. C'est-à-dire que même quand on est comme moi, qu'on ne connaît pas les règles du football et qu'on se retrouvait quand même au stade pour aller voir le match avec les copains quand on était petit. Bien évidemment, ça faisait partie de nous. Et je voulais faire le portrait de cette femme, Colette, donc qui est cordonnière, et ça me plaisait cordonnière, on dit cordonnière, et ça me plaisait énormément de l'imaginer suivre l'équipe de foot quand ils jouaient à l'extérieur, monter dans le bus avec les ultras, avec les fans, et puis suivre l'équipe. Je trouvais que c'était très, très intéressant parce que j'ai moi-même rencontré quelqu'un qui a eu cette vie et qui m'a expliqué que la seule fois où elle est sortie, les seules fois où elle sortait de Guignon, c'était quand elle montait dans ce fameux bus et que l'équipe de Guignon jouait ou à Monaco ou peu importe en France. Mais c'était comme une sortie, en fait, entre amis. Et je pense que ça a apporté beaucoup, beaucoup de joie aux gens qui vivent et qui ont vécu à Guignon. Je pense que ça en fait partie, en tout cas.
C'est vrai que c'est ce qui se fait au premier abord à l'aspérité du personnage. Après, on va découvrir à quel point elle a d'autres aspérités et d'autres mystères. Mais c'est vrai que cette petite femme qui est une fan de foot, c'est quelque chose de très intrigant et on a envie de la suivre. Et finalement, on se dit qu'on a peut-être raté quelque chose en n'étant pas fan de foot dans sa jeunesse. Et donc, grâce à vous, on comprend à quel point ça peut être important dans ce genre de ville. Et effectivement, dans ce roman, chaque thématique que vous abordez, vous l'abordez de manière très approfondie. Et par exemple, vous abordez la thématique des violences sexuelles sur les enfants dans le milieu du sport. Est-ce que cette thématique-là, que je prends comme exemple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont abordées, vous la connaissez intimement ou est-ce qu'il y avait un exemple que vous aviez en tête quand vous avez décidé de...
Absolument. Je voulais parler de cela. C'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à aborder, à débuter ce roman, parce qu'il fallait que je parle aussi de ça. Et comme ça avait touché quelqu'un de très proche, c'était compliqué pour moi, mais en même temps, il fallait que d'abord que je fasse une enquête. J'ai fait une véritable enquête de police. J'ai mené mon enquête, j'ai trouvé des témoignages, j'ai trouvé des gens qui ont accepté de me parler, d'autres qui voulaient pas me parler. C'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Donc, autant vous dire que tous les protagonistes sont décédés. Mais j'avais envie d'en parler parce que pour avoir déjà échangé avec Nathalie Péchala, qui, elle, connaît bien ce problème dans le sport, mais dans tous les sports, c'est que là, partout il y a des enfants, partout il y a des prédateurs. Alors, pas partout, il n'y a pas des prédateurs partout, heureusement. J'ai envie de dire grâce à Dieu, comme le merveilleux film d'Ozon. Mais c'était très important pour moi d'en parler, parce que ça existait. Et donc, ce silence-là, on sait qu'il existe encore. Et on ne protégera jamais assez nos enfants. Et je voulais en parler. Et je voulais, en même temps, montrer qu'on peut avoir été une victime et pouvoir s'en sortir aussi, parce que j'en connais personnellement aussi. J'ai un jour entendu une amie à moi très proche qui a été agressée quand elle était jeune, et elle m'a dit « Mais jamais, jamais j'aurais laissé cet homme-là prendre le dessus sur ma vie. J'ai décidé d'être heureuse parce qu'il était hors de question qu'il me gâche la vie. » Et il faut pouvoir le faire, mais je voulais aussi montrer qu'on peut aussi grandir et s'en sortir.
Ouais, le personnage de Lies, pour ça.
Il est merveilleux, Lies. On a envie de le rencontrer.
Ah, mais absolument.
On a envie de l'épouser aussi. Ouais, il est magnifique.
Il est extraordinaire et sans cacher ses failles. Ce qui est
absolument.
Ce qui le rend vraiment.
Il le dit. Ouais,
absolument.
Et puis parler de l'addiction, c'est très important. Parce que l'addiction est une véritable maladie qu'on ne sait absolument pas traiter. Et c'était important pour moi d'en parler.
C'est vrai que toutes ces thématiques, vous les abordez les unes après les autres et chaque fois de manière très approfondie. De manière plus générale, pour moi, dans ma lecture, la thématique principale qui relie tous les personnages, c'est la question de la filiation. Celle qu'on subit, comme Colette avec sa mère, et puis celle qu'on se choisit lorsqu'elle choisit Mokhtar. Celle qu'on délègue aussi par amour, et ça on le verra dans le livre. Est-ce que c'est un questionnement qui est présent chez vous depuis longtemps? Et est-ce que, consciemment, à travers ce livre, vous souhaitiez l'aborder finalement sous tous les angles, puisque vous l'abordez vraiment, et en montrant que la filiation qu'on se choisit, c'est celle qui nous permet de survivre?
Oui, moi je crois beaucoup en ça. Je pense qu'on est dans une famille, on a la chance ou parfois la malchance. On peut transformer aussi la chance et la malchance. Les choses peuvent se transformer. Je pense qu'on est tous faits de nos rencontres. Aussi belle soit-elle, aussi terrible soit-elle, mais on est tous constitués de nos rencontres. Et oui, je crois... c'est vrai que depuis d'ailleurs Les Oubliés du Dimanche et en passant par Violette Gertz-Cimetière qui est née sous X, je me suis toujours posé la question parce que ça me fascine et j'ignore pourquoi, mais je suis fascinée aussi par les rapports qu'on a aux enfants qui ne sont pas forcément les nôtres mais qu'on aime pas autant mais différemment mais aussi fort, aussi puissamment. J'ai toujours, en plus j'ai vraiment l'exemple en tête parce que je l'ai relu cet été, j'ai relu la trilogie de Pagnol et on se souvient tous que Marius abandonne Fanny sans savoir qu'elle est enceinte et l'enfant va être recueilli par Fanny, c'est aimé à la folie. Et à un moment donné, Marius va dire à son père, mais c'est mon enfant, je veux récupérer mon enfant. Et son père, César, va lui dire, mais les chiens donnent la vie, mais cet enfant, quand il a eu froid, quand il a eu peur, quand il a pleuré, c'était son père et sa mère qui étaient là. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. J'ignore pourquoi, mais c'est vraiment une thématique qui me fascine, de savoir pourquoi on se choisit, pourquoi on s'aime autant. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on s'aime plus ou moins. C'était pour moi très important d'en parler.
Ouais, dans ce sens, la relation entre Colette et Mokhtar est absolument merveilleuse, magnifique, bouleversante. Et on voudrait tous avoir Mokhtar comme père de choix. Et j'avais une question sur le fait que vous ayez choisi dès le début la fin du livre. Donc vous avez déjà répondu que vous saviez comment ça allait se terminer avec ce twist absolument magnifique qui nous laisse pantois après nous avoir fait pleurer sur toutes les dernières pages du livre. Est-ce que une des questions que je me posais, parce que les personnages principaux, évidemment, on les adore, le personnage d'Agnès qui a cette espèce d'autodérision absolue, vous avez osé mettre en scène une femme réalisatrice et vous avez décrit sa carrière de manière extrêmement crédible. Et donc, je me demandais si certaines réalisatrices ou une réalisatrice en particulier vous avait inspiré pour ce personnage qui est absolument merveilleux.
Alors, en fait, déjà, ce qui m'a inspiré pour ce personnage, c'est tout le travail que j'ai fait avec Claude Lelouch sur ses plateaux. Donc, j'ai pris énormément de toutes mes observations en étant une grosse dizaine d'années sur ses plateaux. Moi, en tant que photographe de plateau aussi, comme co-scénariste, mais j'ai pris tout ça. Ça m'a beaucoup intéressé la mise en scène parce qu'à un moment donné, je me suis dit que j'allais peut-être réaliser Changer l'eau des fleurs et je trouve qu'ils ont trop de courage. Il faut soulever des armées. Je suis plus tranquille derrière mon ordinateur et avec mes petites notes pour l'écrire. En revanche, c'est vrai que c'est une rencontre qui a été déterminante. Mais comme quoi, voyez, encore une fois, je voulais faire un mélange parce que Jean-Pierre Jeunet a passé ses vacances enfant à Guignon. Je voulais prendre tout ce que je peux prendre de Claude. Donc, je voulais mélanger un petit garçon qui aurait grandi à Guignon et qui serait une sorte de mélange de Jean-Pierre et de Claude. Et en fait, j'ai rencontré chez Michel Legrand il y a 2-3 ans, Agnès Jaoui, que j'adore, que j'ai toujours adoré, dont j'adore les films. Puis j'adore tout d'elle, de toute façon, quand elle chante, quand elle parle, tout. J'aime tout. Et je me suis dit, en la voyant, mais enfin, Valérie, tu peux pas parler, il faut que ce soit une femme qui parle de son métier. Et heureusement, parce que du coup, après, j'ai réfléchi, qu'est-ce que c'est la place de la femme sur un plateau de cinéma, comment on dirige, avec qui. Et puis, forcément, j'adore l'idée qu'elle aime son mari, que ce soit lui qui lui donne envie de faire du cinéma, et puis que le jour où il l'abandonne, elle va abandonner son métier, donc elle va s'abandonner elle-même. Et bien sûr... grâce à Colette et grâce au passé et grâce parfois aux fantômes qui nous retrouvent, elle peut envisager autre chose et avoir d'autres projets. Mais effectivement, c'est en voyant Agnès 2 heures, on s'est à peine parlé. Ça a été un déclic pour moi de la voir. C'est comme si c'était un signe qui me disait, mais Valérie, il faut que ce soit une femme. Il faut que la nièce ce soit une nièce et non pas un neveu. Voilà. Donc ça a été très important cette rencontre là.
Ouais, d'ailleurs, ça nous paraît une évidence dans le livre.
Oui.
Et on partage ces découragements. Et ce que je trouve absolument touchant, c'est que vous ne cachez rien de ces découragements. Et justement, sur le rôle de la réalisatrice sur un plateau, vous expliquez à quel point, quand elle est au fond du trou, hein, puisqu'elle est vraiment dans cette situation de dépression, elle se sent absolument incapable de prendre toutes les décisions qu'il faut prendre toutes les 5 minutes sur un plateau.
Oui.
Et cet aspect-là, il devient très concret, effectivement, et très honnête. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce personnage, c'est que elle est très crédible dans les succès qu'elle a eus. Et elle est aussi très crédible dans le fait que là, à ce moment-là, plus rien n'est possible. Et donc, quand on voit qu'elle va trouver une autre voie, on en est d'autant plus heureux et soulagé parce que vous ne l'avez pas épargné dans ces moments de tristesse et de découragement. On a par ailleurs un patchwork de plein de personnages. Est-ce que vous avez des personnages favoris dans les personnages secondaires, à part évidemment tous nos personnages principaux? Est-ce qu'il y en a particulièrement que vous aimez, le personnage de Paul, par exemple, qui apparaît peu, mais qui est extrêmement touchant dans sa manière de s'adresser à Agnès, dans la relation qu'ils ont depuis des années? Il y a quelque chose de très drôle dans leur relation.
Les amis d'enfance, on parlait tout à l'heure, tous les amis d'enfance, il y a Adèle, il y a Liès, ils sont formidables. Mokhtar, je reviens à Mokhtar parce que en fait c'est vraiment un cordonnier qui travaille rue des Abbesses et en fait que je suis allée interroger et quand j'ai rencontré cet homme et que je l'ai trouvé si beau, je me suis dit mais en fait il faut qu'il soit un des personnages du livre. Il s'appelle vraiment Mokhtar et il fait vraiment ce métier et c'était j'adore faire ça aussi, rencontrer des gens dont je tombe amoureuse et ils se retrouvent dans mon roman, comme le fossoyeur Norbert dans Changer l'eau des fleurs. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Moi, Blanche, il y a un moment où Blanche, elle imagine ce que serait sa vie si son bourreau n'était plus là. Je crois que c'est un des moments que je préfère. Je sais pas pourquoi. Je me dis, quand il sera plus là, quand il sera mort, je vais faire ça. Donc, on peut aussi comprendre qu'est-ce que c'est que d'être terrorisé toute sa vie par quelqu'un. Il y a tellement de gens qui terrorisent des familles entières. Je pense à ce qui se passe en ce moment en Afghanistan où on veut tuer toutes les femmes et j'ose imaginer que ce qu'elles doivent se dire quand ce sera fini, quand on pourra enlever, quand on pourra se déshabiller, quand on pourra sentir le vent dans nos cheveux, voilà ce qu'on fera. Mais ça, c'est universel aussi. Donc j'aime beaucoup, mais je les aime tous en fait. Je crois que je pourrais pas en parler si je les aimais pas.
Même le personnage de Sudoro qui
oui,
est
parce
le...
que au bout du compte
vous le rendez presque attachant.
C'est terrible ce qui peut se passer quand on est petit et puis après il y a ce qu'on fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait, soit on dit je suis une victime donc je vais être méchant ou soit je vais tout transformer parce que je veux me venger parce qu'il y a quelque chose de terrible ou je choisis d'aller vers la lumière, ça c'est des choix, voilà. On choisit de faire comme là en l'occurrence dans ce roman, c'est j'ai choisi de faire comme son père et non pas comme sa mère. Et puis j'adore aussi Aimé Chauvel, le footballeur, hein, mais qui existe. Hein. Il s'appelle pas Aimé Chauvel, mais il existe. Il est toujours vivant. Il était absolument magnifique. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je ne sais pas s'il est toujours aussi beau. Mais c'était vraiment quelqu'un de beau, de profondément gentil et qui a fait une très belle carrière, mais qui est resté à Guignon. Et puis enfin voyez, tous ces gens-là, j'adore. Je connais pas Louis Berthéol, mais on adore Louis aussi. On sent qu'il était tellement proche. Ça, c'est quelque chose aussi de très récurrent dans mes romans. Quand on perd quelqu'un, le jour où on perd quelqu'un de très important, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans notre vie. Ça, c'est quelque chose qui est très récurrent. Je sais que c'est comme ça dans Trois aussi. C'est quelque chose où je tiens beaucoup à ça. Je crois que j'ai vraiment besoin de les aimer quelque part pour pouvoir en parler, pour pouvoir me mettre à leur place aussi, de ressentir ce qu'ils ressentent.
C'est vrai qu'on est toutes tombées amoureuses d'Aimé Chauvel.
Oui.
Cette scène d'anniversaire est absolument bouleversante.
Il y a quelque chose de très sensuel. On m'a dit quelque chose de très, très sensuel.
Ah oui, ouais. Il y a une espèce d'érotisme caché qui est très puissant. Merci beaucoup, Valérie. On sera très heureux de retrouver tous ces personnages dans ce roman. Merci encore.
Merci infiniment.